Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté, je façonne.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 20 janvier 2025, voici une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller que je vous présente. Jean-Louis, vous avez l'habitude maintenant de m'entendre chaque lundi à 11h30. Cette émission va avoir comme principal sujet l'analyse de la libre pensée du discours de politique générale de François Bayrou. Mais auparavant, je vais aborder deux points. Le premier point, c'est le rappel de l'initiative que propose le groupe Fred Zeller pour célébrer la fin de la monarchie absolue de droit divin, dimanche prochain. Ce sera donc le 26 janvier, au Café Philippe de Bourroux, à partir de 11h30. Le banquet tête de veau, le traditionnel banquet tête de veau, donc pour célébrer cette fin de la monarchie absolue de droit divin, la date anniversaire étant le 21 janvier, mais comme chaque année, c'est un dimanche que nous célébrons donc cet anniversaire, et ce sera le 26 janvier, donc au Café Libre de Bourroux. Et si parmi nos auditrices, auditeurs, certains souhaiteraient se joindre à ce banquet, ce n'est pas très compliqué, il suffit de passer un petit message, un petit courriel à l'adresse groupe-fred-zeller@lpdordogne.fr. Une participation de 20 euros est demandée donc pour ce banquet. Et donc rendez-vous à ce moment-là à 11h30 le dimanche 26 janvier au Café Libre de Bourroux. Et le règlement sur place pour ceux qui n'auraient pas pu nous transmettre leur règlement entre-temps. Et avec le mail, donc, pour pouvoir nous indiquer si vous souhaitez vous joindre à ce banquet. Le deuxième sujet, c'est encore une fois de plus une agression contre des militants de la laïcité, des militants qui se battent pour la défense de la loi de 1905. Et là, c'est une agression violente contre Jean Bobéro-Vincent, agression de la part du site Franc Tireur. Alors, cette attaque vraiment d'une bassesse rare a donné lieu à un communiqué de la Vigie de la laïcité, dont Jean Bobéro est un membre fondateur, et de la Libre Pensée, qui apporte son soutien à Jean Bobéro. Alors, voici le premier communiqué, celui de la Vigie de la laïcité, qui s'adresse à leurs abonnés à leur newsletter. Chers abonnés à notre newsletter, la Vigie de la laïcité a pris connaissance d'un article publié dans la revue Franc-Tireur à propos de Jean Bobéro-Vincent. Cet article, peu courageusement écrit sous un pseudonyme que vous pouvez trouver dans le numéro 166 de ce mercredi 15 janvier 2025, est clairement à charge, mensonger et diffamatoire. Nous laissons à M. Bobéro-Vincent le soin de décider d'un éventuel dépôt de plainte. Jean Bobéro-Vincent, membre de notre association, la Vigie de la laïcité, bénéficie du soutien total de l'ensemble du conseil d'administration de la Vigie de la laïcité face à cette tentative de déstabilisation. La revue Franc-Tireur, dont les méthodes manquent décidément de déontologie journalistique, s'est déjà illustrée dans le passé par des attaques similaires envers des partisans et des acteurs de la laïcité respectueux du droit et de la loi du 9 décembre 1905. Alors que nous célébrons cette année les 120 ans de cette loi fondatrice, il est regrettable de constater que cette publication préfère attiser les passions plutôt que de s'appuyer sur la raison, en contradiction flagrante avec sa devise autoproclamée. La laïcité ne doit pas être idéologisée ni instrumentalisée au service d'une entreprise réactionnaire. Elle mérite d'être défendue avec rigueur et impartialité, loin des approximations de chroniqueurs méconnaissant son histoire, son droit et sa pratique concrète. Jean Bobéro-Vincent est un universitaire reconnu, ayant consacré sa carrière à l'étude et à la défense de la laïcité. Chercheur de premier plan, il a été titulaire de la chaire d'histoire et sociologie du protestantisme 1970-1990, puis de la chaire d'histoire et sociologie de la laïcité 1991-2007, à l'École pratique des hautes études, dont il est aujourd'hui président d'honneur et professeur émérite. Avec plus de 30 ouvrages, 13 livres collectifs dirigés et une centaine d'articles publiés dans des revues à comité de lecture, Jean Bobéro-Vincent est une figure incontournable des réflexions académiques et citoyennes sur la laïcité. Ses travaux, pourtant, semblent avoir largement échappé à l'auteur de l'article. La vigie de la laïcité s'indigne de cette attaque et renouvelle son engagement dans la défense d'une laïcité éclairée, respectueuse de ses principes fondateurs et de celles et ceux qui la font vivre au quotidien. La vigie de la laïcité. Voilà. Donc, deuxième communiqué de soutien à Jean Bobéro de la part de la Fédération nationale de la libre-pensée. Pour en finir avec la chasse aux sorcières. Achetez la presse et vous serez maître de l'opinion, c'est-à-dire les maîtres du pays. Citation d'Adolphe Crémieux. Il faut en finir avec la chasse aux sorcières menée par le capital, les racistes du printemps républicain, de l'extrême droite et de leurs complices, la coupe est pleine. Le génocide actuel du peuple palestinien leur a donné un goût de sang dans la bouche. Ils ne se retiennent plus en attaquant tous ceux qui refusent de participer à leur ratonnade anti-musulmane. Ils devront rendre des comptes quand se tiendra le Nuremberg du sionisme assassin du peuple palestinien, car ce procès viendra et plus rapidement que certains le pensent. Déjà, des mandats d'amener ont été délivrés par la justice internationale. Rien n'arrêtera la machine judiciaire. Tous les assassins et ceux qui couvrent leurs agissements meurtriers par des vagissements hystériques devront rendre des comptes. Les poubelles de l'histoire sont déjà prêtes à recevoir leurs déchets en tout genre. Parce qu'ils sont dans une telle déconfiture et qu'ils sont démasqués, les tenants de la fausse gauche et les faux laïcs perdent leurs moyens et les racistes de tous bords sont au bord de la folie furieuse. Dans un article d'une rare violence, le journal Franc-Tireur publie un article honteux, rempli de haine, écrit avec un balai brosse trempé dans un seau de pourriture, tant le style ressemble à celui de Wyszynski, procureur dans les procès de Moscou en 1937, lors des Grandes Purges et de la Grande Terreur stalinienne, contre notre ami Jean Bobéro. Le plumitif de service a commis un poulet, dans tous les sens du terme. C'est une œuvre de basse police, pousant l'ignominie et la honte jusqu'au bout. Il s'est caché derrière un pseudonyme glorieux et respecté par le mouvement ouvrier démocratique et laïque, Gaston Crémieux. Le plumitif de service n'a aucune honte, c'est sa façon de vivre. Il avance masqué, toujours sans courage. Pour mieux frapper dans le dos, il salit les vivants comme il salit les morts. Qui était Gaston Crémieux ? Gaston Crémieux était libre-penseur à Marseille. Ce n'est pas le plumitif de service qui est un prosélyte de la chasse à tous ceux qui ne pensent pas comme lui, si tant est qu'il ait pensé un jour. Ni libre, encore moins penseur, mais insulteur. Ces gens-là ne pensent pas. Ils comptent sur les prébendes de leurs commanditaires et sont tous au service de la loi séparatisme, réactionnaire, anti-laïque, xénophobe. C'est une loi de guerre civile. Gaston Crémieux était un communard et il est monté à l'assaut du ciel pour l'émancipation humaine. Il a été fusillé pour l'exemple, lui aussi à la fin de la Commune de Marseille en 1871. Le premier accusé du procès en conseil de guerre de la Commune de Marseille est Gaston Crémieux. Son avocat est Maître Sicard. Le point de départ de l'accusation, ce sont les paroles qu'il a prononcées à la séance de l'Eldorado le soir du 22 mars. Il répond « Je n'ai prononcé que des paroles de paix et de conciliation, appelant les uns et les autres à la modération. » Source Association des Amis de la Commune de Paris de 1871. Les totalitaires commanditaires du plumitif de service, donc du journal Le Franc-Tireur, en propageant la haine, la discorde, ne cherche qu'à provoquer des affrontements pour permettre des ratonnades et la guerre civile. Qui a intérêt à ce que les gens s'affrontent pour mieux faire passer leurs plans réactionnaires ? Rappelons que quand la Yougoslavie a refusé les plans d'ajustement structurel du FMI, c'est-à-dire l'austérité pour la population, alors les mêmes commanditaires ont déclenché des conflits religieux et ethniques qui ont fait exploser le pays et permis aux capitalistes de faire de grands profits. À qui le crime profite-t-il ? Telle est toujours la question qui répond aux faits. Gabriel Péri, lui rendant hommage en novembre 1929 dans l'Humanité, le comparant à Robespierre, parle de ce pourquoi combattait Gaston Crémieux. la suppression de la misère des classes laborieuses et le triomphe de la liberté et de la justice ont été leurs passions dominantes. C'est ce combat qui est sali par le plumitif de service du journal de l'Oncle Franc-Tireur. Gaston Crémieux prête serment comme avocat le 24 mars 1857. Il est commis d'office pour les personnes disposant de peu de revenus. Ses collègues le surnomment l'avocat des pauvres. Il obtient des succès plus marquants dans le journalisme littéraire. Les Marseillaises, 1868, revue de poèmes aux inspirations diverses dont l'un, Les voix du peuple, exprime la pensée politique et humanitaire de Gaston Crémieux. Partout où l'homme humain est en spectacle et souffre, énorme écrasement des petits par les grands, je reconnais ma plainte et ma rébellion, le cri de Spartacus, de Christ et de Socrate. Peuple, bouc émissaire éternel de l'histoire, lève-toi. La liberté rayonne en haut des barricades, mais la famille attend notre gain journalier. Et ton grand ennemi, c'est ta propre ignorance. Source, le Métron. Le plumitif de service de Franc-Tireur, lui, est au service des puissants, de la Macronie, des réactionnaires, des racistes, des faux laïcs. Mais, vrai laïc, clérical sans soutane, pour s'en convaincre, il suffit de lire ce que dit Wikipédia, le média porteur de l'ignominie. Franc-Tireur est un hebdomadaire politique français lancé en 2021 par le groupe Xex Media Invest, CMI, détenu par le milliardaire Daniel Kretinsky. Il a été créé à l'initiative de Caroline Fourest et de Denis Olien, vite rejoint par Raphaël Enthoven. La direction en est d'abord assurée par Christophe Barbier et Éric Decouty. Caroline Fourest étant alors engagée avec l'hebdomadaire Marianne, qu'elle quitte en janvier 2022. Elle prend alors officiellement les commandes de Franc-Tireur en avril 2022. En clair, la réaction et la xénophobie anti-musulmane fait journal. Nous ne répondrons pas au pseudo-argument du plumitif de service, car l'heure n'est plus à cela. Elle ne l'a jamais été d'ailleurs avec cette engeance réactionnaire. La lecture du poulet du plumitif de service suffit à éclairer les esprits, même les plus obtus, et il y en a. Ce n'est pas un débat d'idées que les totalitaires, fascistes au petit pied, mènent. Ils insultent, mentent, truquent en prêtant à notre ami Jean Bobéro des allégations fausses, des citations honteusement tronquées, des positions qu'il n'a jamais exprimées, ni même pensées un jour. Ainsi, dans les débats auxquels il a participé, il a toujours affirmé que la laïcité impose aux religions les libertés laïques, mariage de personnes de même sexe, droit à l'euthanasie, etc. La Fédération nationale de la libre pensée est bien au-delà dans le mouvement laïque et démocratique tout entier, nous en sommes sûrs, assure de sa totale solidarité et de son soutien inconditionnel à Jean Bobéro contre ses injures et calomnies. La libre pensée, la Ligue de l'enseignement et la Ligue des droits de l'homme ont combattu côte à côte pour faire triompher la loi de 1905 et la laïcité. Nous avons un bilan qui nous permet d'être indéfectiblement aux côtés de Jean Bobéro. Quel est le bilan des insulteurs, des faux laïcs, des xénophobes et des totalitaires? Poser la question, c'est y répondre. On comprend alors ce que peut être le néant. Nous le rappellerons à l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. Nous ne répondrons pas non plus à cette ignominie qui affirme que toute condamnation du sionisme relève de l'antisémitisme. Rappelons que l'antisionisme est une position politique et que l'antisémitisme est un délit pénal. Mais le plumitif de service de Franc-Tireur confond volontairement les deux pour en appeler de fait à la répression judiciaire. Quand on mêle le débat sur des idées politiques à la judiciarisation des tribunaux, on retrouve le propre du salinisme et du nazisme, on est un totalitaire. Il est particulièrement frappant de voir que les vrais antisémites le sont toujours, mais que selon les mots récents d'un philosophe, ils n'ont fait que de changer de sémite à haïr et à persécuter. Le vrai changement est que certains leur prêtent la main ouvertement, en reniant parfois ce qu'ils furent naguère ou prétendent dire être. Les masques tombent toujours, un jour ou l'autre. On ne discute pas avec ceux qui vous insultent, on les méprise, on les combat. Ils devront rendre des comptes ici, ailleurs et partout. Et donc, c'est un texte signé de Christian Hachen, secrétaire général de La Libre Pensée. Voilà. Donc, c'était ces deux premiers points qui nous ont pris une bonne première partie de cette chronique. Et je vous propose maintenant, donc, d'en venir à l'analyse de La Libre Pensée sur le discours de politique générale de François Bayrou. Je n'aurai pas, probablement pas le temps d'aller jusqu'au bout de ce texte, mais vous pourrez le retrouver, bien évidemment, sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Je rappelle donc le lien, l'adresse de ce site. Derrière l'enfumage, le danger corporatiste se précise. C'est quasiment une obélie inspirée par l'Église catholique, y compris dans les mots même, comme « conclave ». C'est même à la limite de la caricature. Beyrouth Secours commence par battre sa coupe dans la plus grande tradition du dolorisme. Citation, sur ces bancs, même parmi ceux qui sont violemment hostiles à ce que nous pensons, pas un ne trouve notre position enviable. 84% des Français, paraît-il, jugent que le gouvernement ne passera pas l'année. Il m'arrive même de me demander où les 16% restants trouvent la source de leur optimisme. Fin de citation donc de François Bayrou. Après la flagellation, l'union sacrée au nom de tous les Français, car, nouvelle citation, « quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers. Quand tout va mal, on est contraint au courage. Il y a un deuxième atout décisif, c'est le besoin, l'exigence, l'injonction que le pays nous assigne, retrouver la stabilité. Tout le pays, tous les Français en ont besoin. Ils comprennent bien que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ils nous enjoignent, je le crois, de joindre nos forces pour forcer les issues. » Fin de citation. C'est le discours classique. Tout le monde est responsable, tout le monde est coupable. Les sujets d'inquiétude sont innombrables. Il en est un toutefois qui émerge avec une force criante, le surendettement de notre pays. Quelles incertitudes et difficultés cette situation suscite. Depuis la guerre, la France n'a jamais dans son histoire été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. C'est une nouvelle citation du discours de François Bayrou. C'est donc la faute des Français et des gouvernements qui ont voulu les aider dans leurs misères diverses. Et sans le dire, tout en le disant quand même un peu, c'est la reprise de la litote macroniste « Le budget social coûte un pognon de dingue ». Qui est visé, sinon les travailleurs, les chômeurs, les pauvres et les immigrés qui coûtent tant et tant et rapportent si peu ? Sous le misérabilisme condescendant, on retrouve le terreau et le fumier de l'extrême droite. Le passage honteux sur les dangers de l'immigration n'est qu'un appel au secours à l'extrême droite et à la chouannerie de Retailleau et de Villiers. L'annonce de la remise en cause du droit du sol à Mayotte va dans le même sens, surtout mis en œuvre par Manuel Valls, qu'aucune ignominie raciste et xénophobe n'arrête. Sous l'évocation des Gilets jaunes et l'immense peur que cela a suscité pour la Macronie, la seule solution du pouvoir est d'en appeler au mouvement syndical pour qu'il lui serve de béquille. Citation, « J'ai confiance dans les partenaires sociaux. Je crois qu'ils ont entre les mains une part décisive de l'avenir national. C'est aussi cela la nouvelle méthode démocratique, en finir avec les injonctions du haut vers le bas, redonner place à la vie démocratique, avec les citoyens, les élus, tous les corps intermédiaires qui constituent la nation française. » Fin de citation. C'est impliquer les syndicats dans la dégradation de la France si la situation ne s'améliore pas et s'ils refusent de faire corps avec ce nouveau gouvernement. La doctrine sociale corporatiste de l'Église au secours de la Macronie agonisante. Les corps intermédiaires sont tout droit sortis de la doctrine sociale de l'Église qui a aussi inventé le principe de subsidiarité. C'est ce que revendiquait Pie XI dans son encyclique Quadragesimo Anno, définissant le principe de subsidiarité. Citation, que l'autorité publique abandonne donc au groupement de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance ou se disperserait à l'excès son effort. Elle pourra dès lors assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle parce qu'elle seule peut les remplir, diriger, surveiller, stimuler, contenir, selon que le comportement, les circonstances ou la nécessité l'exigent. Le modèle parfait a été incarné par la France d'Ancien Régime. L'État était replié sur ses fonctions régaliennes, armée, police, justice, diplomatie, et toutes les autres fonctions étaient dévolues à des corps intermédiaires de plus bas niveau, les fermiers généraux pour la collecte de l'impôt, l'Église et les ordres religieux pour un semblant d'éducation, de soins et de charité. C'était la stricte application avant l'heure du principe de subsidiarité défini par l'Église catholique et appliqué par l'Union européenne. les trois États, la noblesse, le clergé et le tiers-État, c'était aussi les trois étages, l'État, les provinces et les corps intermédiaires. La Révolution française en 1789 a brisé l'Ancien Régime et le principe de subsidiarité qui n'existait pas encore formellement, mais qui était déjà dans la pratique. Elle a institué une société dans laquelle on a toujours confié, pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi, à des organismes de rang supérieur les missions d'une société moderne et démocratique. Ce qui caractérise la Révolution française, la République, c'est que pour assurer l'égalité des citoyens devant la loi, on a créé la notion de service public. Ce qui caractérise l'Ancien Régime et le principe de subsidiarité, c'est que pour briser l'égalité des citoyens devant la loi, pour donner et confier à des organismes de rang inférieur, on privatise et on détruit les services publics. La doctrine sociale de l'Église, ce sont cinq principes intangibles. Premier principe, à l'heure des révolutions, seule l'Église peut agir efficacement contre. Deuxième principe, la propriété privée des moyens de production et l'inégalité sociale sont d'ordre naturel et de droit divin. Troisième principe, pas de salaire trop élevé, interdiction du droit de grève et pas trop d'impôts sur le capital. Quatrième principe, promouvoir l'alliance du travail et du capital par la notion de communauté d'intérêt. Cinquième principe, se doter d'instruments de conquête de la classe ouvrière ou par l'instauration de corps intermédiaires quand les outils manquent. L'idée générale est que la société dans son ensemble représente le corps mystique du Christ et que les différentes structures qui la composent sont des corps intermédiaires, faisant partie du tout. Le corps humain obéissant au cerveau, c'est-à-dire au Christ et à l'égalité, est subordonné au tout. Il n'y a donc pas de lutte de classe ni d'indépendance de classe des organisations ouvrières puisqu'elles doivent être subordonnées au tout. Elles doivent servir le bien commun qui est celui de l'État, oppresseur et exploiteur. Voilà ce que disait Philippe Pétain à Saint-Étienne le 1er mars 1941 en présentant la Charte du Travail. Citation. « Les causes de la lutte des classes ne pourront être supprimées que si le prolétaire qui vit aujourd'hui accablé par son isolement retrouve dans une communauté de travail les conditions d'une vie digne et libre en même temps que des raisons de vivre et d'espérer. » Cette communauté, c'est l'entreprise. Sa transformation peut, seule, fournir la base de la profession organisée qui est elle-même une communauté de communautés. Cela exige qu'une élite d'hommes se donne à cette mission. Ces hommes existent parmi les patrons, les ingénieurs et les ouvriers. C'est à eux d'abord que je fais appel. Je leur demande de se pénétrer de la doctrine du bien commun au-dessus des intérêts particuliers, de s'instruire des méthodes d'organisation du travail capables de permettre à la fois un meilleur rendement et plus de justice en donnant à chacun sa chance dans l'entreprise et dans la profession. » Fin de citation donc de Philippe Pétain présentant la Charte du Travail le 1er mars 1941. Rappelons que tout le mouvement syndical a refusé et combattu la Charte du Travail, notamment par le premier acte de résistance, à savoir le manifeste des 12 de novembre 1940, qui proclamait que le syndicalisme français doit s'inspirer des principes essentiels, dont 1. Il doit être anticapitaliste et, d'une manière générale, opposé à toutes les formes de l'oppression des travailleurs. 2. Il doit prendre dans l'État toute sa place et seulement sa place. 3. Il doit affirmer le respect de la personne humaine en dehors de toute considération de race, de religion ou d'opinion. Il doit être libre, tant dans l'exercice de son activité collective que dans l'exercice de la liberté individuelle de chacun de ses membres. 5. Il doit rechercher la collaboration internationale des travailleurs et des peuples. Ce sont ces principes qui ont conduit la CGT Force ouvrière, notamment, a appelé au nom à De Gaulle en 1969 sur un projet similaire à celui que présente François Bayrou aujourd'hui. Il lui arrivera nécessairement la même chose. 1940, 1969 et aujourd'hui, l'heure est à la résistance. Alors, je vous propose d'en arrêter là sur cette analyse du discours de François Bayrou. Là, j'en suis à peine à la moitié. Vous le retrouverez sur le site de la Fédération nationale de la libre-pensée, fnlp.fr, ainsi que sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Et je vous propose d'en venir maintenant au moment musical de notre chronique. Nous poursuivons notre balade puisée dans la revue L'Idée Libre autour du blues, toujours disponible si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, je vous propose un morceau. On a fait un petit saut, j'irai dans le temps. Là, on arrive aux années 60 à 70. Je vous propose d'écouter Janis Joplin dans une interprétation assez extraordinaire de Summertime. J'espère que vous avez apprécié ce morceau. On n'a pas forcément souvent l'occasion de l'écouter. Pour ma part, je trouve assez sublime. Donc, je vous propose bien évidemment de nous retrouver pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller lundi prochain à 11h30, toujours sur Radio Libre en Périgord. Et puis d'ici là, ceux qui le souhaitent, nous pouvons nous retrouver dans le cadre du banquet Tête de Veau, du banquet pour célébrer la fin de la monarchie absolue du droit divin, dimanche 26 janvier. Rendez-vous à 11h30 au Café Libre de Bourou. Et si vous souhaitez vous inscrire, c'est donc avec une participation de 20 euros qui vous sera demandée. Écrivez à l'adresse groupe fred-zeller@lpdordogne.fr. À la semaine prochaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi,
11h30.